Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin, on est ensemble jusqu'à midi. Avec le printemps, c'est le retour des festivals. Le 45e festival d'Auvers-sur-Oise s'inscrit dans la lignée de ses derniers opus. Il mettra à l'honneur, selon la tradition instaurée par Pascal Escande, le directeur fondateur du festival, des artistes émergents et de grandes figures établies, créant ainsi un dialogue intergénérationnel et interdisciplinaire. Au cours de cette émission, nous accueillerons la pianiste Claire-Marie Leguet, qui a une très riche actualité. Elle nous parlera du concert qu'elle donnera samedi 13 juin avec le compositeur et organiste Thierry Esquèche, de son nouvel album consacré à Jean-Sébastien Bach et de son dernier livre, écrit à deux voix avec l'académicien Eric Orsena. Nous recevrons également le jeune violoniste Oscar Hatzfeld, qui forme un duo très prometteur avec le pianiste Martin Jaspard.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Le festival d'Auvers-sur-Oise fête ses 45 ans, du 12 mars au 11 septembre. Entre création mondiale, résidence artistique, talent fidèle ou émergent, 26 rencontres invitent le public dans une grande aventure musicale. La 45e édition a été ouverte par un prélude, un concert inaugural ayant mis en lumière le trio Zarathustra qui a obtenu un triomphe salle Cortot le 12 mars. Ce prélude a célébré l'aboutissement d'un compagnonnage artistique de 3 ans et la naissance d'un premier album paru chez Disco Vert, le label Maison Découverte du festival. Un magnifique disque comprenant le quatuor de jeunesse de Gustav Mahler, une création de la jeune compositrice et violoniste Élise Bertrand, ainsi que les deux trios de Dimitri Shostakovich.
Thank you.
C'était le trio numéro 1 de Dimitri Shostakovitch, une œuvre de jeunesse encore post-romantique, par le trio Zarathoustra, qui a ouvert le 45e festival d'Auvers-sur-Oise, par un concert inaugural Salle Cortot, qui saluait la sortie de leur premier album sous le label Disco Vert. Lancé en 2021, 5 ans déjà, le OFF du festival d'Auvers-sur-Oise est dédié exclusivement aux jeunes talents et ensembles émergents. Il investit les 15 villages de la communauté de communes Sauceron Impressionniste avec une attention particulière pour les petites églises du parc national régional du Vexin français et pour diffuser la musique classique au plus près des habitants et favoriser l'accès à tous, tous les concerts du OFF étant gratuit sur réservation. Parmi les concerts du OFF, samedi dernier 16 mai, le directeur fondateur Pascal Escande a invité le duo Oscar Hatzfeld, violon, Martin Jaspar, piano, à se produire en l'église Saint-Clair d'Hérouville en Vexin. Et justement, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio d'IDFM Radio le violoniste Oscar Hatzfeld. Bonjour Oscar.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans notre balade musicale. Après avoir commencé le violon au conservatoire de Dourdan et poursuivi vos études au CRR de Versailles, vous êtes admis au CNSMD de Paris dans la classe d'Olivier Charlier avec 2 assistants remarquables, Missa Yang et Pierre Fouchenray. Vous êtes actuellement en master après avoir obtenu votre licence.
C'est bien cela.
Vous avez été sélectionné pour participer à plusieurs académies d'orchestre et pas les moindres, l'ONDIF, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre de Chambre de Paris. Et aussi aux 3 dernières saisons de l'association Jeunes Talents en musique de chambre. Vous avez cofondé le Quatuor Hiro avec lequel vous vous produisez dans des festivals renommés comme la Chaise Dieu et aussi dans plusieurs pays européens. Quel était le programme du concert de samedi dernier, Oscar Hatzfeld ?
Le programme du concert de samedi dernier, c'était un programme autour de Beethoven et que nous avons joué avec Martin au piano, Martin Jaspar. Et donc nous avons joué la première sonate de Beethoven en ré majeur et la 9e sonate, dite la sonate à Kreutzer.
Donc la plus connue.
La plus connue et alors la plus longue aussi.
Alors que la première est plus courte, c'était l'époque du jeune Beethoven.
C'est ça. Mais en fait,
un peu haydénienne peut-être.
Un peu mozartienne, assez légère et géniale pour ouvrir un concert très, très rayonnante comme sonate. Et en effet, elle dure 20-25 minutes alors que la Kreutzer en dure 40 minutes. Mais il n'y a pas tant d'années qui les séparent. Parce que la première a été composée entre 97 et 98.
1797.
Oui, bien sûr. Oui. 1797 et 1798, alors que la sonate à Kreutzer a été composée entre 1802-1803.
Ah oui, en effet.
Que 5 ans. Donc c'est fascinant.
Avec ces extraordinaires et merveilleuses variations.
Ah mais c'est ça. Mais c'est l'un des liens qu'elles ont, c'est que les deux ont un deuxième mouvement qui est un thème et variation. Mais justement, la Kreutzer, qui a été composée du coup assez tôt dans la vie de Beethoven, pouvait à l'époque choquer et elle a été catégorisée de terrorisme artistique.
Ah oui.
Carrément à l'époque, tellement ça surprenait les gens. Donc ça ne marchait pas à l'époque, c'était un peu trop violent.
C'est le propre du génie.
C'est le propre du génie.
De surprendre.
Ben oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est complètement banalisé, mais à l'époque, ça paraissait très
violent. Oui, mais vous savez, quand on l'entend pour la première fois en concert, c'est très étonnant.
Ah oui, oui, c'est bien sûr.
Je l'avais entendu il y a déjà longtemps à la salle Gaveau avec Joseph Souk et Julius Katchen.
Oui, d'accord.
Comment vous êtes-vous rencontré avec Martin Jaspar ?
Avec Martin, nous sommes tous les deux étudiants au Conservatoire de Paris. Et on se connaissait, mais il y a beaucoup de monde au Conservatoire de Paris, donc oui. On ne peut pas être amis ou connaître personnellement tout le monde. Et on est tous les deux cette année à l'Académie Jarouski. Et donc on s'est rencontrés ensemble à cette académie et on a fait le premier concert ensemble, en trio. Et ça a bien marché, on s'est tout de suite très bien entendu, donc on a décidé de continuer de jouer ensemble.
À l'Académie Jarouski, avec qui avez-vous travaillé, Oscar ?
Moi, j'ai travaillé avec le grand violoniste Nemanja Radulović, voilà, qui est un violoniste serbe et qui est passionnant.
Devenu français.
Évidemment. et qui est passionnant, qui est d'un talent et d'une gentillesse, qui est très pédagogue, et c'est très précieux de pouvoir bénéficier de ses masterclass et de ses cours avec lui.
Et qui a plus l'air au départ d'un rocker que d'un violoniste classique.
Complètement, mais c'est ça qui est fascinant, c'est cette personnalité si propre à lui-même et si touchante.
Très chaleureux et très sympathique.
Très chaleureux, très sympathique, mais...
Et très talentueux.
Mais beaucoup trop de talent, beaucoup trop.
On n'en a jamais trop,
Oscar. Non, ben, y en a beaucoup, là.
Et Martin Jaspard, quel pédigré a-t-il ? Parce qu'on en a parlé rapidement, mais donc il a eu sa licence, je suppose, au CADSM.
C'est ça, il passe son master cette année. Oui. Il est une année au-dessus de moi au conservatoire.
Et dans quelle classe est-il, vous le savez ?
Martin, il est dans la classe de la pianiste Hortense Cartier-Bresson.
Ah oui, bien sûr, très très bon professeur.
Excellente, excellente. Et Martin, il a gagné le concours international Johannes Brahms l'année dernière, oui, à Detmold. Voilà, donc il continue son parcours aujourd'hui.
Comme vous êtes tous les deux lauréats de la promotion Schubert de l'Académie Jaroussky, on va vous écouter dans le grand duo de Franz Schubert. C'était le grand duo de Schubert par le pianiste Martin Jaspard et notre invité en balade musicale, le violoniste Oscar Hatzfeld. Oscar, vous avez sans doute des dates de concert pour cet été, peut-être dans des festivals.
Oui, pour parler des dates avec Martin, on fait du trio aussi à côté avec Martin, avec un violoncelliste qui s'appelle Thomas Préchal, qui vient des Pays-Bas. Et donc on a un concert le 19 juin, où nous jouons le triple concerto de Beethoven à la scène musicale devant la garde républicaine, dans le cadre de l'Académie Jarouski. Nous allons aussi... on a un concert le 21 août en Allemagne, et après nous avons 5 concerts à la Chaise Dieu.
Très beau festival.
Un magnifique festival où on est à chaque fois très bien accueillis. J'y étais allé l'année dernière en quatuor, et là cette année j'y retourne en trio avec Martin justement.
Avez-vous des projets, peut-être un disque?
Peut-être un disque, oui, je sais pas si on peut parler de projet parce qu'il n'y a rien de concret, mais j'espère pouvoir plus tard enregistrer un disque, pourquoi pas en trio ou en sonate avec Martin, et puis sinon continuer d'apprendre, de progresser et faire des concerts le plus possible, j'espère.
Vous êtes très bien parti. Merci beaucoup, Oscar Hatzfeld. Bonne journée et bonne continuation dans votre jeune carrière.
Merci beaucoup à vous.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Le hymne du festival d'Auvers-sur-Oise débutera avec le concert d'ouverture pour saluer les 45 ans du festival. Jeudi 28 mai, 21h, en l'église Notre-Dame. Au programme Handel, les feux d'artifice royaux et Jean-Philippe Rameau, la dernière entrée de son opéra-ballet « Les Sauvages ». Par l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, les solistes de l'Académie de l'Opéra Royal de Versailles, sous la direction de Gaëtan Jarry, un chef renommé dans le répertoire baroque. Cette année, le Festival d'Auvers-sur-Oise et le Musée d'Orsay célèbrent leurs anniversaires respectifs, 45 ans pour le festival, 40 ans pour le musée. Pour marquer cet événement, le festival a commandé à Thierry Esquèche, véritable fil rouge du festival depuis 1995, un poème symphonique pour violoncelle et orchestre, inspiré de 3 tableaux de Renoir figurant dans l'exposition anniversaire parisienne et de 3 œuvres emblématiques de Van Gogh peintes à Auvers-sur-Oise. À la baguette, Thomas Engelbrook dirigera l'orchestre de chambre de Paris, tandis que la jeune et charismatique Anastasia Kobekina, artiste révélée par le festival en 2015, sera la soliste de ses tableaux symphoniques en création mondiale. La symphonie numéro 2 de Camille Saint-Saëns et Pulcinella de Stravinsky prolongeront ce dialogue entre peinture et musique. Ce concert-événement se déroulera mardi 2 juin à 20h dans la grande nef du musée d'Orsay à Paris. Thierry Esquèche, parrain de l'orgue de l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, retrouvera le 13 juin Claire-Marie Leguet, avec qui nous avons le grand plaisir d'être en duplex dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Bonjour Claire-Marie.
Bonjour à tous.
On ne vous présente plus, vous êtes lauréate de plusieurs concours internationaux, invitée sur les scènes internationales et dans les festivals prestigieux. Votre répertoire est très large, incluant la musique de notre temps. Votre discographie comprend notamment des œuvres de Liszt, Schubert, Ravel et déjà Bach, saluées par la critique. Vous enseignez au CNSM de Paris, vous êtes l'auteur de plusieurs livres publiés chez Flammarion, avec de très beaux titres auxquels on souscrit, comme « La vie est plus belle en musique » et « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». Vous avez un très fort attachement avec le festival d'Auvers-sur-Oise, où vous avez été révélé il y a quelques années et récompensé par une victoire de la musique pour votre CD Schumann chez Discover, le label Mission Découverte du festival, n'est-ce pas Claire-Marie?
Oui, absolument. Et puis je peux même ajouter peut-être à votre présentation la parution toute récente d'un troisième livre, « Que la joie demeure, vivre avec Bach », paru chez Albin Michel et qui est coécrit avec Eric Orsena. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Bien entendu, Claire-Marie Leguet. Avez-vous un souvenir d'un concert donné au Festival d'Auvers-sur-Oise à partager avec nos auditeurs, et peut-être même plusieurs d'ailleurs?
Ah oui, plusieurs. J'ai de nombreux souvenirs à partager. Alors, tout a commencé en fait avec lors d'une masterclass donnée par Bruno Rigouteau à la mairie d'Auvers-sur-Oise dans le cadre du festival d'Auvers-sur-Oise. Et à partir de là, des liens très très forts se sont tissés avec Pascal Escande et avec toute l'équipe du festival. Et j'ai donné à Auvers mon premier concert public dans une série officielle de concerts. J'avais 15 ans. Et c'était à l'église d'Auvers. Donc ça a été un point de démarrage très très fort et évidemment un souvenir très marquant pour moi que ce premier concert. Encore toute jeune. Ensuite, il y a eu vraiment de nombreux rendez-vous à Auvers. Et il y a eu le concerto en sol de Ravel, par exemple, avec l'Orchestre National de France, dans la cour du château de Méry-sur-Oise. Et puis, il y a eu plus récemment un concert en présence d'Henri Dutilleux, un concert qui était un hommage à Henri Dutilleux. Et le compositeur était là. Et c'était à l'église d'Auvers. Voilà, il y a eu d'autres rendez-vous, comme un concert à deux pianos avec François-René Duchâble à l'église de Méry. Voilà, enfin, les souvenirs sont vraiment innombrables.
Pour l'édition de cette année, samedi 13 juin à 21h, en l'église Notre-Dame d'Auvers, vous allez vous produire avec Thierry Esquèche pour un concert piano et orgue. Quel va être le programme, Claire-Marie Le Guay ?
Alors, le programme sera tout un parcours au travers des siècles, en commençant par Bach, avec le concerto italien que je jouerai au piano, la toccata dorienne que Thierry Esquèche jouera à l'orgue. Et puis, nous passerons l'orgue, le piano... l'un et l'autre, l'un puis l'autre plus exactement, avec des pistes de Schumann. Et ensuite, nous jouerons, Thierry Esquèche improvisera comme des ponts entre les pièces. Nous jouerons ensemble une pièce qu'il a écrite pour nous, qui s'appelle Choral Dream, donc pour orgue et piano, qui est une très 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 belle œuvre qui montre vraiment les sonorités très différentes, les jeux très différents de l'orgue et du piano, avec un orgue qui va être plus incisif et rythmique, là où le piano, lui, aura des sonorités plus coulantes, avec cette question bien évidemment travaillée par Thierry Esquèche, le compositeur, de la question de l'équilibre entre ces deux instruments.
Pour donner envie à nos auditeurs, nous allons vous écouter tous les deux, précisément dans « Choral's Dream ». Nous écoutions le duo Claire-Marie Le Guay piano, Thierry Esquèche orgue, qui seront tous les deux en concert samedi 13 juin à 21h en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Renseignements et réservations sur le site du festival. Parlons maintenant de deux autres points forts, Claire-Marie Le Guay, pour cette actualité et qui gravitent d'ailleurs autour de Jean-Sébastien Bach. Votre nouvel album « Écoutez la lumière » sorti chez Mirare et votre livre que vous évoquiez tout à l'heure « Que la joie demeure, vivre avec Bach » écrit à deux voix avec l'académicien Éric Orsena, publié chez Albin Michel. Que représente Bach dans votre vie, Claire-Marie Le Guay?
Oh, Bach est un pilier, il est tout à fait central dans mon répertoire. Il est aussi un compositeur dont la musique nous restaure, nous construit, nous aide à nous tenir plus droit. Bach a cet équilibre extraordinaire entre le cœur et l'esprit, entre la terre et le ciel, et donc il est tout à fait indispensable, je pense, pour chacun de nous, dans ce qu'on peut, dans ce qu'il apporte dans notre vie quand on l'écoute et encore plus quand on le joue. La musique de Bach est une source de joie infinie. C'est ce que nous développons et c'est ce sur quoi nous échangeons, nous dialoguons, Éric Orsena et moi, dans ce livre écrit à deux plumes. Surtout ce que justement la musique de Bach apporte dans notre vie, en quoi elle est une source d'inspiration, en quoi elle nourrit ce que l'on ressent, ce que l'on expérimente dans la vie.
Vous aviez d'ailleurs écrit sur la musique de Bach une phrase très pertinente alors que vous n'aviez que 10 ans, Claire-Marie Le Guay.
Ah oui, c'est vrai. 10 ans. Je vous écoute.
Ben, j'ai vu ça dans la présentation de votre disque et je me suis dit, ben, formidable, c'est vraiment, vous aviez tout compris déjà.
Il y a 10 ans, sans doute. Il y a 10 ans. J'avais un peu plus de 10 ans, il y a 10 ans.
Oh, si peu. Comment avez-vous choisi les titres que vous avez enregistrés sur votre album parmi tous les chefs-d'œuvre du cantor de Leipzig?
Oui, alors c'est une excellente question, ça n'a pas été facile. Alors c'est toujours une démarche essentielle et une construction qui prend du temps en fait, c'est que le choix d'un enregistrement. Là, dans le cas présent, en fait, c'était vraiment le fil conducteur, c'est vraiment l'intimité, c'est-à-dire l'intimité que je peux avoir avec ces pièces, dans ce qu'elles révèlent d'un message très à la fois personnel, inspirant, et aussi ce qui m'attache le plus, si vous voulez, à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach en tant que pianiste, donc instrumentiste, c'est toute son œuvre pour instrument seul. Les suites de Bach, les suites pardon pour violoncelle, les partitas pour violon, les partitas pour piano et toutes ces œuvres qu'il a écrites comme ça. Je l'imagine assis à sa table, dans une intimité avec lui-même. Voilà. Donc, cette notion d'intimité que j'ai à la fois moi avec ses œuvres qui sont enregistrées et puis celle que j'imagine de Bach lui-même avec sa page d'écriture et ce qu'il a cherché à nous transmettre.
Vous avez choisi aussi des transcriptions comme La Passion selon saint Matthieu et aussi des concertos d'après Marcello et Vivaldi.
Tout à fait. Oui, avec cette influence de l'Italie qui ouvre un pan de l'écriture de Bach qui est festif. Voilà, qui est ensoleillé. Bach, qui vivait dans une Allemagne assez rigoriste, découvre l'Italie à travers Vivaldi et c'est une révélation pour lui. Donc il y a le concerto italien qui est une œuvre extraordinaire en trois mouvements avec cette construction formidable d'un premier mouvement très construit, un deuxième mouvement complètement libre, ce qui est assez rare en fait dans la musique de Bach, une sorte de ruban qui se déroule librement, et puis un troisième mouvement, un final très vif. Donc ça, c'est l'Italie joyeuse, l'Italie des concertos de Vivaldi que Bach a beaucoup transcrit pour les faire connaître à son époque autour de lui, à une époque où évidemment il n'y avait ni radio, ni internet, ni autre moyen de diffuser la musique que de la jouer soi-même. Et donc le fait de transcrire pour le clavecin permettait à Bach de jouer les mêmes œuvres qu'il admirait de ses contemporains, Vivaldi ou Marcello.
Il n'y avait pas non plus d'ailleurs de droit d'auteur, ni de protection juridique.
Hélas pour les compositeurs, mais...
Malheureusement.
Voilà, exactement.
Écoutons un premier extrait du concerto pour quatre clavecins d'après Vivaldi, dans une transcription du pianiste Florian Noack, sous vos doigts, Claire-Marie Le Guay. Allegro du concerto pour quatre clavecins d'après Vivaldi par Claire-Marie Le Guay, notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio. Parmi les grands chefs-d'œuvre de Bach, vous avez choisi de graver deux pièces extraites des variations Goldberg, l'aria et la variation 25. Pour quelle raison ?
Alors pour un petit peu la même raison que celle que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un parcours dans cet enregistrement Bach écouter la lumière par Eugène Mirare, c'est un parcours tissé avec l'écriture du livre Que la joie demeure, vivre avec Bach, chez Albin Michel. Donc vraiment l'écriture et l'enregistrement sont, le livre et l'enregistrement sont complètement liés. Et donc ce sont des perles, des étoiles, si je puis dire, une sorte de constellation de pièces qui sont réunies pour parler de au plus intime de ce que la musique de Bach représente pour moi. Et c'est vrai que cette aria des variations Goldberg à cette histoire absolument extraordinaire qu'il fait partie du petit livre d'Anna Magdalena. Et donc on a tout porte à croire que cette aria a été copiée par Anna Magdalena. Alors moi j'aime imaginer le fait que Bach ait pu à un moment donné de leur vie familiale se mettre au clavecin et improviser cette aria extraordinaire, et j'imagine Anna Magdalena le copiant pour que cette musique céleste ne disparaisse pas. Toujours est-il qu'il fait partie de ce petit livre d'Anna Magdalena, qui est une sorte de recueil, une sorte de livre d'or de la famille Bach, où les amis de passage ont écrit quelques pages de musique, les enfants aussi de la famille Bach ont écrit quelques feuillets. Et puis il y a cette aria absolument extraordinaire. Donc voilà, donc il y a à la fois l'histoire, l'œuvre qui en elle-même bien évidemment traverse les siècles par sa beauté et par la fulgurance d'un message en une apparente simplicité qui en fait nous transporte.
Écoutons cette aria par notre invitée Claire-Marie Le Guay. Thank you. Jean-Sébastien Bach sur IDFM Radio, l'aria des variations Goldberg par Claire-Marie Leguet avec qui nous sommes en duplex pour son album Bach, écoutez la lumière, sorti chez Mirare, et pour son livre Que la joie demeure, vivre avec Bach, écrit à deux voix avec l'académicien Eric Orsena. Pourquoi ce titre d'ailleurs inspiré de l'aria très célèbre Jésus que ma joie demeure, que nous connaissons tous?
Oui, alors sans doute parce que c'est une des œuvres qui a marqué l'enfance d'Éric Orsena lorsqu'il était à la cathédrale de Quimper. Il raconte d'ailleurs cet épisode au tout début du livre, qui est une sorte de révélation pour lui de la place que la musique va occuper dans sa vie. Et donc c'était très beau, ça a été très beau et ça l'est toujours d'ailleurs dans notre relation de travail et autour de la musique. Que cet amour de la musique qui occupe une part importante de la vie d'Éric Orsena, il a commencé le piano il y a une dizaine d'années, il travaille son piano tous les jours, il a un rendez-vous quotidien en fin d'après-midi, et il travaille notamment cette aria dont nous parlions tout à l'heure, l'aria des variations Goldberg, et la cantate « Jésus que la joie demeure », que ma joie demeure, pardon, voilà, et pareil, lui est particulièrement cher. Donc c'était un point de départ. Et puis il est vrai que c'est voilà que le caractère joyeux est vraiment un des premiers éléments qui ressort lorsqu'on rencontre Éric Orsena, et que cette joie à ne pas confondre avec la gaieté. La joie n'empêche pas le malheur, n'empêche pas le destin terrible de frapper à la porte des Bachs qui perdent tant d'enfants. Il y a les naissances et les deuils se succèdent sans cesse. Bach perd aussi sa première femme, Maria Barbara, dans des conditions tragiques. Voilà. Mais cette joie, c'est la joie de l'espérance, c'est la joie de la foi, c'est la joie de la renaissance, en fait. Et c'est ce qu'on entend dans sa musique, et c'est sans doute pour cela qu'elle nous fait tant de bien.
Qu'est-ce qu'une vie réussie pour une pianiste comme vous, Claire-Marie Leguet?
Voilà, mais c'est une vaste question. Comme ça, là, à brûle pour point, je vous dirais, c'est une vie qui est toujours pleine de renouveau, en fait, de à la fois quelque chose qui s'ancre, à la fois une personnalité, une identité, un répertoire qui s'ancre, et puis une ouverture de plus en plus grande sur le monde, sur les autres, sur le public, sur la façon de partager la musique.
Avez-vous d'autres dates pour tous ceux qui ne seraient pas disponibles le 13 juin à Auvers-sur-Oise, Claire-Marie Leguet?
Oui, alors je serai le 8 juin aux Invalides avec François Salles qui est Raphaël Moreau, un programme en sonate et en trio. Je serai le 25 juin à Orléans pour un récital un peu particulier, assez original, un récital participatif. Donc au cours du concert, je ferai choisir la suite du programme au public. Je serai également au Festival Chopin à Bagatelle le 2 juillet, voilà, et ensuite à Bruxelles le 13 juillet, à la Roque d'Anteron le 26 juillet. Voilà, il y a pas mal de rendez-vous. Je serai aussi le 14 juin avec la flûtiste Magali Monnier à Saint-Maurice, à côté de Paris.
Avant de nous quitter, nous allons pouvoir vous écouter dans un dernier extrait de votre très beau disque Bach, le prélude numéro 2 du livre 1, du clavier bien tempéré. Thank you. Bach, prélude numéro 2 du Clavier bien tempéré par Claire-Marie Le Guay, qui était notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio. Merci beaucoup Claire-Marie Le Guay.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Très bonne journée et très bon concert, puisque vous en avez beaucoup devant vous.
Merci beaucoup, oui. Très bon festival à vous.
Merci encore.
C'est la période des festivals.
Et revenez vite nous parler de votre actualité.
Merci, à bientôt.
À très vite, j'espère.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Revenons sur le programme de la 45e édition du Festival d'Auvers-sur-Oise. Dans le cadre de cette émission, nous ne pouvons pas détailler tous les concerts, mais après celui de Claire-Marie Le Guay et Thierry Esquèche le 13 juin, la suite est tout aussi alléchante. L'envoûtant pianiste Fazil Say, le 17 juin, à l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, la mezzo-soprano Léa Desandré et l'ensemble Jupiter dirigé par Thomas Dunford pour une carte blanche vendredi 26 juin, le clavier romantique de la jeune Bella Schütz le samedi 27 juin, et même une fenêtre ouverte sur le jazz avec un hommage à Ray Charles le mercredi 1er juillet. Le concert de clôture avec Marc Minkowski et les musiciens du Louvre vendredi 3 juillet autour d'un programme Handel dont ils sont de grands interprètes. Du Gloria au célèbre Dixit Dominus. Mais quelques jours avant, le violoniste Renaud Capuçon, qui reste fidèle au festival depuis sa première venue en 1998, se produira à deux reprises. Vendredi 19 juin, en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, Renaud Capuçon partagera la scène avec le pianiste Guillaume Bellhomme, un jeune talent qu'il parraine dans un programme de sonates Beethoven, Franck, Grieg et Esquèche. Et le samedi 20 juin, de 10 à 13 heures, Renaud Capuçon donnera une masterclass. Écoutons Renaud Capuçon dans un extrait de son nouvel album sorti chez Warner qu'il consacre à Ernest Chausson, la Sicilienne du concert Opus 21. Renaud Capuçon est entouré par le regretté pianiste Nicolas Angelich et les magnifiques archets du Quatuor Ébène. Thank you. C'était la Sicilienne du concert d'Ernest Chausson avec Renaud Capuçon et ses amis. Renaud Capuçon sera sur la scène de l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise le vendredi 19 juin et donnera une masterclass le 20 juin dans le cadre de la 45e édition du festival d'Auvers-sur-Oise. Renseignements et réservations sur le site du festival et par téléphone au 01 30 36 77 77.
Balade musicale sur IDFM Radio.
En préparant cette émission, nous venons d'apprendre une bien triste nouvelle, avec la disparition à 79 ans de la plus francophile des sopranos britanniques, Felicity Lott, des suites d'une longue maladie. Felicity Lott a fait une magnifique carrière, invitée dans les plus grandes maisons d'opéra et les plus prestigieux festivals. Nous l'avions applaudie dans Mozart et Richard Strauss, dont elle fut une inoubliable maréchale du Chevalier à la Rose avec le chef Carlos Kleiber. Et plus récemment en France, avec Charme et Abattage dans La Grande Duchesse de Gerolstein, Irrésistible dans La Belle Hélène de Jacques Offenbach, sous la direction de Marc Minkowski et la mise en scène de Laurent Pelly, mais aussi en masterclass et en récital dans Le Chant français de Ravel à Poulenc. Écoutons Felicity Lott dans une ravissante mélodie d'Édouard Lalo sur un poème de Victor Hugo. Felicity Lott chantait une mélodie d'Édouard Lalo, accompagnée par le pianiste Graham Johnson. Un hommage bien trop court pour cette merveilleuse soprano qui vient de nous quitter. Quant à moi, Christophe Gravreau, je vous donne rendez-vous demain dimanche, 11h, pour une nouvelle balade musicale. Merci à Erwan, à la technique. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.